Nous voulons continuer nos méditations à partir de ce chant que nous connaissons bien et qui dit « Nul n'est comme toi ». Et la deuxième strophe nous dit « Nul n'est comme toi, si tendre et si patient ». Alors aujourd'hui, nous voulons parler de la tendresse de Dieu. Qui correspond à ce que la Bible dit de la compassion, de la miséricorde de Dieu. Dieu si tendre. Il y a ça dans certains cantiques. C'est une expression qu'on peut chanter, la tendresse de Dieu. Pourtant, le mot qu'on emploie, tendresse, accolé à celui de Dieu, ne va pas de soi. Qualifier Dieu de tendresse, n'est-ce pas le réduire à nos petits besoins ? Parmi lesquels celui d'être un peu chouchouté, d'être un peu cajolé, dans un monde parfois dur, si dur, dur comme l'acier. Alors qu'est-ce que donc que cette tendresse de Dieu que l'on chante parfois, que l'on trouve dans certaines versions ? Il n'est pas inutile de faire un petit tour dans la Bible. Si l'on avait à éclairer ce mot par un terme biblique, il faudrait sans doute parler, choisir le mot entrailles. Entrailles. Les tripes. En hébreu comme en grec, la compassion de Dieu est souvent désignée par le mot entrailles. Dieu est ému de compassion dans ses entrailles de miséricorde. Notre Dieu a choisi de parler simplement, comme nous parlons aujourd'hui. On dit, on a quelqu'un, on a avoir dans les tripes. C'est vraiment avoir quelque chose au plus profond de soi-même. Et Dieu a choisi cette expression à la portée de tous, parce qu'on peut la comprendre facilement. Donc voilà ce qui donne une tonalité particulière à la tendresse de Dieu. Loin d'être un sentiment de surface, elle a son siège dans les entrailles, c'est-à-dire au plus profond de son être. Et la compassion de Dieu n'est pas donc simplement une émotion, même profonde, qu'il ressent quand il voit ses enfants dans la misère. C'est aussi un attribut puissant, par lequel, et un attribut agissant aussi, par lequel il accomplit la délivrance de son peuple en détresse. Alors, toujours dans l'introduction, on peut citer deux textes, par exemple Ésaïe. On l'entend par exemple, cette compassion profonde qui prend Dieu aux entrailles, si on peut dire, quand il dit en Ésaïe 49, 14, 16, « Est-ce qu'une femme oublie le bébé qu'elle allait ? Est-ce qu'elle cesse de montrer sa tendresse pour les fils de ses entrailles ? Même si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai pas, dit le Seigneur. Vois, j'ai écrit ton nom dans les paumes de mes mains. Je pense sans arrêt à tes murs, ô Jérusalem. » Et on trouve la même chose, la même image dans le Nouveau Testament pour décrire ce que Jésus vit. À la vue des foules qui étaient sans berger. On voit aussi l'image du Père dans l'épisode du Fils prodigue qu'on va reprendre tout à l'heure, en Luc chapitre 15. On traduit souvent par « être saisi de compassion ». Le Père est saisi, le Fils est saisi de compassion. À la vue des foules, à la vue de ce Fils qui revient à la maison. Mais il faudrait traduire « être pris aux entrailles ». Donc Dieu est saisi de compassion. Il est pris aux entrailles, il est compatissant, il est miséricordieux. Voilà une perfection de Dieu qui nous touche de près, car Dieu n'est pas indifférent à notre misère, à nos misères. Hélas, le cœur humain pécheur n'est pas très sensible aux autres. Il est porté à se refermer sur lui-même, à se carapacer. Mais la compassion de Dieu, elle est grande, elle est admirable. Alors voyons là, on va lire un texte tout à l'heure, mais voyons là sous plusieurs aspects. La première chose que la Bible dit, c'est que le Seigneur, l'Éternel, est compatissant. La compassion de Dieu est un attribut donc que Dieu possède en lui-même depuis toujours. Dans le psaume 25, il est dit « Éternel, souviens-toi de tes compassions et de ta bienveillance, car elles sont depuis toujours ». Donc on peut imaginer sans trop de difficulté que les trois personnes de la Trinité, le Père, le Fils, l'Esprit Saint, sont remplis d'affection et de tendresse réciproque à l'intérieur, à l'intérieur même de Dieu. Cependant, la plupart du temps dans la Bible, les compassions de Dieu se manifestent à l'égard de son peuple aux prises avec son péché, avec la misère, avec la détresse. Jacques 5, 11, le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. Et donc il voit la condition misérable dans laquelle nous nous sommes empêtrés, en nous écartant loin de Dieu. Et donc il est pris aux entrailles, il est compatissant, il est miséricordieux et nous délivre des conséquences de nos péchés. L'Éternel est compatissant. La deuxième chose qu'on peut voir, c'est que les compassions de Dieu sont à l'œuvre tout au long de l'histoire d'Israël. Alors, de quelle façon Dieu a-t-il fait preuve de compassion envers son peuple ? Il faudrait aussi parler de la compassion de Dieu au passé. Le plus grand acte de compassion de Dieu a été l'envoi de son Fils et sa mort sur la croix il y a 2000 ans. Comme le plus grand acte de la compassion de Dieu dans l'Ancien Testament a été l'Exode, la délivrance de l'esclavage des Hébreux en faisant sortir son peuple de l'esclavage, donc des Égyptiens, de l'Égypte. Toute l'histoire d'Israël que l'on lit dans ces longues pages parfois de l'Ancien Testament, toute l'histoire d'Israël est marquée par la fidélité, par l'infidélité d'Israël et aussi par la grande compassion de Dieu. Alors je vais lire quelques extraits maintenant de Néhémie chapitre 9. Quand on a étudié Néhémie, on n'a pas vu le chapitre 9. Et je vais lire quelques versets de Néhémie chapitre 9 qui insistent sur la compassion de Dieu au cours de l'histoire d'Israël. Donc ce sont les versets qui sont inscrits sur votre écran. Je vais les lire les uns à la suite des autres, tels qu'ils sont découpés là. Ils refusèrent d'obéir et ne se souvinrent pas des merveilles que tu avais faites, Seigneur, en leur faveur. Ils raidirent leur nuque et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur esclavage. Mais toi, tu es un Dieu qui pardonne, qui est compatissant et qui fait grâce. Lent à la colère et riche en bienveillance, tu ne les as pas abandonnés, même quand ils se sont fait un veau en métal fondu, en disant « Voici ton Dieu qui t'a fait monter d'Égypte » et quand ils se sont livrés envers toi à de grands outrages. Dans ta grande compassion, deuxième mention, tu ne les as pas abandonnés au désert et la colonne de nuée n'a pas cessé de les guider de jour en jour dans leur chemin, ni la colonne de feu pendant la nuit d'éclairer pour eux le chemin qu'ils avaient à suivre. Mais ils se soulevèrent et se révoltèrent contre toi. Ils retournèrent leur dos, à ta loi, tuèrent tes prophètes qui les conjuraient de revenir à toi et se livrèrent à de grands outrages. Alors tu les as livrés entre les mains de leurs adversaires qui les opprimèrent un temps. Mais au temps de leur détresse, ils crièrent à toi et toi tu les as entendus du haut des cieux et dans ta grande compassion. Tu leur as donné des libérateurs qui les ont sauvés de la main de leurs adversaires. Et quand ils eurent du repos, ils recommencèrent à faire le mal devant toi. Alors tu ne les as abandonnés entre les mains de leurs ennemis qui les dominèrent pendant un autre temps. Mais de nouveau ils crièrent à toi et toi, tu les as entendus du haut des cieux. Et dans ta grande compassion, tu les as sauvés maintes fois. Dans ta grande compassion, tu ne les as pas exterminés, tu ne les as pas abandonnés, car tu es un Dieu qui fait grâce et qui a compassion. Alors, on voit déjà dans ce texte de Néhémie 9 toute l'histoire d'Israël qui nous est relatée dans cette magnifique survol de l'histoire. Et la compassion de Dieu est à l'œuvre tout au long de l'histoire. L'histoire nous encourage en nous rappelant tout ce que Dieu a fait dans la vie des autres. L'histoire nous aide aussi à éviter les erreurs et les fausses pratiques des hommes et des nations. L'étude de l'histoire biblique ne nous fait jamais voir la vie tout en rose ou au contraire tout en noir, mais elle nous donne par contre confiance pour affronter le lendemain. Et puis, on peut ajouter que ces compassions se renouvellent chaque matin. Alors là, ça fait tilt dans vos esprits. on pense à Lamentations 3, versets 21-22. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce pourquoi j'espère, c'est que ta bienveillance éternelle n'est pas épuisée. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin, grande est ta fidélité. Les compassions de Dieu se renouvellent non seulement à chaque étape de l'histoire de l'Église, mais elles se renouvellent aussi à chaque matin de nos vies. Dans sa grande compassion, le Seigneur voit notre misère quotidienne et daigne nous faire revivre et nous renouveler. Chaque matin, ses compassions nous reposent pour que nous soyons prêts à débuter une nouvelle journée avec sa victoire dans nos vies. Puis un autre aspect de sa compassion, c'est que Jésus est notre grand prêtre plein, notre souverain sacrificateur, notre grand prêtre plein de compassion. La compassion de Dieu, la plus merveilleuse, est celle qu'il nous a révélée en son Fils Jésus-Christ. Jésus a vu la misère autour de lui. Il en a été profondément touché. Il a été profondément touché par cette misère, aussi bien physique que morale. Que de fois il a été saisi de compassion dans les évangiles. Saisi de compassion, Jésus guérit deux aveugles qui imploraient sa pitié. Matthieu 20, 34. C'est juste avant les rameaux. En entendant les supplications d'un lépreux, Jésus fut ému de compassion et le toucha et le purifia. Là, c'est au début de son ministère, Marc 1, 41. Devant un cortège funèbre qui accompagnait une veuve pleurant la perte de son fils, il eut compassion, il est dit. Il fut saisi aux entrailles et ressuscita son fils. Luc 7, verset 13. En Marc 9, 36, il est dit, à la vue des foules, c'est ce que j'ai lu tout à l'heure, il eut compassion de ces foules, car elles étaient lassées, abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger pour les conduire. Donc Jésus a eu des émotions profondes dans ses entrailles qui se sont traduites par des actes ensuite puissants de délivrance. Et puis on arrive à la parabole du bon samaritain, qu'on va résumer en l'appliquant à Jésus. La parabole du bon samaritain nous enseigne cette vérité au moyen d'une illustration qui frappe, frappante. Le sacrificateur et le lévite, je le rappelle pour mémoire, sont restés totalement indifférents à la vue d'un samaritain blessé sur la route, sur le bord de la route. En Luc 10, verset 33, il est dit « Mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui. » Donc cet homme, voilà, il y a un samaritain qui s'approche de lui, qui va s'approcher de lui. Alors qui est ce samaritain qui a pris soin du blessé, allongé sur le chemin? Alors je crois qu'une bonne interprétation, c'est de dire qu'il y a une image ici aussi de Jésus. C'est Jésus-Christ finalement. Il m'aime, il s'intéresse à moi, il sait tout ce que j'ai souffert, il voit combien... les ennemis de nos âmes, le diable, le monde, la nature pécheresse ont fait des dégâts. Quels dégâts ils ont fait dans ma vie. Et parce que je suis devenu son esclave, je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Je prends de bonnes résolutions pour ne pas mentir, pour ne pas critiquer, pour être fidèle à mes engagements, mais je n'y arrive pas. J'aspire à la paix, au bonheur autour de moi, mais je vois que des disputes, des querelles, de la violence, de l'agressivité. Les inquiétudes, les déceptions m'enlèvent la joie de vivre. Ma conscience est criblée de blessures qui me font mal. Parfois, je voudrais pleurer et crier, mais je me dis, à quoi bon, qui va m'entendre? Qu'est-ce que ça va changer? Alors, nous sommes comme cet homme sur le bord du chemin. Et lorsqu'il le vit... Le Samaritain en eut compassion et s'approcha, il banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et en prit soin. Donc sa compassion ne s'est pas limitée à ressentir une vive émotion, elle a produit une action concrète en vue d'aider ce misérable. Et Jésus me voit, si on applique ça à Jésus, Jésus me voit. Et il entre littéralement dans ma peine. Il s'approche de moi afin de soigner mes plaies et apporter la guérison dont j'ai besoin. Cette guérison multiple dont j'ai besoin. il veut prendre soin de moi, hein, en m'offrant son amour, en m'offrant son pardon, en m'offrant sa consolation aussi. Il comprend ma souffrance et ma peine, parce qu'il a lui-même connu le chemin douloureux de la croix, hein, nous dit l'Évangile. Et ce chemin qui descend plus bas, il a connu ce chemin qui descend plus bas que le chemin qui va de Jérusalem à Jéricho. Il a été au plus bas. Et dès lors, il me remet en selle. Il me redonne un avenir fait d'espérance. Et donc la compassion de Dieu pour nous se manifeste dans des actes concrets, comme on a dit, dans son œuvre de salut. Y a-t-il quelque chose de plus concret que l'incarnation, que les souffrances de Jésus et que la mort de Jésus? Alors oui, aujourd'hui, nous avons au ciel un grand prêtre, un souverain sacrificateur compatissant, Jésus ressuscité. Et on va encore le chanter la semaine prochaine, il est à la droite du Père, il intercède pour nous. Hébreux 15, nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses, compatir, vous avez remarqué, mais il a été tenté comme nous à tous égards sans commettre de péché. Il peut compatir à nos faiblesses. Il connaît parfaitement nos souffrances, nos épreuves, nos tentations. Il est lui-même passé par là. Il est parfaitement qualifié pour intercéder en notre faveur dans la présence de Dieu, car il connaît nos besoins de l'intérieur. Et on peut venir maintenant à la fin de l'histoire du monde. Le prochain grand acte de compassion de Dieu pour l'humanité rachetée viendra au dernier jour. Ça sera la résurrection. La résurrection finale sera l'acte de la compassion ultime de Dieu. Nous serons définitivement libérés de notre souffrance et de la mort elle-même. Alors, après ce rapide tableau, ce que la Bible dit, on peut se demander quelles sont les conséquences pour nous de savoir que Dieu est compatissant. Mais il y a trois conséquences. La première, c'est n'hésitons pas à nous approcher du trône de la grâce et à prier en comptant sur la compassion de Dieu dans tous nos besoins, dans toutes nos détresses. Le psaume 69, versets 17-18 dit « Réponds-moi, Seigneur éternel, tu es un Dieu bon et bienveillant, selon tes grandes compassions, tourne-toi vers moi et ne cache pas ta face à ton serviteur. Puisque je suis dans la détresse, hâte-toi de me répondre. » Alors, quel est notre plus grand besoin? Notre plus grand besoin est de trouver auprès de Dieu, dans sa compassion, de trouver dans sa compassion le pardon. On a lu la semaine passée ce psaume 51. Ô Dieu, fais-moi grâce dans ta bienveillance, selon ta grande compassion. Efface mes crimes, lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. C'est David qui prie. Mais c'est les mots que Dieu a inspirés par son esprit à David pour qu'ils soient les mots que nous pouvons, dans lesquels nous pouvons nous retrouver pour prier Dieu en demandant son pardon. Chaque fois que c'est nécessaire. Nous avons besoin de cela. Et puis, nous devrions imiter notre Dieu en faisant preuve de compassion envers ceux dans le besoin. Et Luc 6, 36 dit « Soyez compatissants comme votre Père est compatissant ». La compassion n'est pas seulement faite de bons sentiments, mais d'actes concrets, comme Dieu l'a fait. La compassion s'accompagne plus d'actes que de paroles. On se souvient des amis de Job, tristement célèbres, au début du livre de Job. C'est en venant visiter leur ami malade, en restant silencieux à ses côtés, qu'ils ont fait preuve de la plus grande compassion. Dès qu'ils ont parlé, ils n'ont fait qu'ajouter des souffrances morales à leur ami, prétendant savoir pourquoi il était malade, et lui parlant de repentance, etc. Ils l'ont enfoncé. Et puis, on peut penser au grand discours contre l'hypocrisie des pharisiens de Jésus en Matthieu chapitre 23. Ce n'est pas un passage que l'on lit facilement, mais il y a des choses très importantes dans ce grand discours. Matthieu 23, 23-24. « Quel malheur pour vous, scribes et pharisiens hypocrites! Vous payez la dîme et l'amande, la nette et du cumin, les plus petites semences, et vous laissez de côté ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la compassion est la foi. C'est cela qu'il fallait pratiquer sans laisser de côté le reste. Guides aveugles qui retenaient au filtre le moucheron et qui avalaient le chameau tout entier, on va dire. Donc la compassion y apparaît aux côtés de la justice et de la foi. C'est cela qu'il fallait pratiquer sans laisser de côté le reste, bien sûr. Donc il s'agit de la pratiquer. La compassion dont il est question ici est pratique, elle est concrète. Être compatissant, ce n'est pas seulement avoir une larme à l'œil devant les malheurs évoqués au journal télévisé. C'est témoigner de la bonté envers ceux qui ont besoin de nous et qui croisent notre route, des prochains bien concrets. La foi chrétienne nous a laissé un héritage remarquable de manifestations concrètes de compassion par des œuvres caritatives qui se sont développées un peu partout dans le monde suite au témoignage de l'Évangile. Cependant, nous devrions manifester de la compassion tout particulièrement envers nos frères dans la foi, dit aussi le Nouveau Testament. Paul nous dit en Éphésiens 4, 32, « Soyez bons les uns envers les autres ». Soyez compatissants, il parle de l'Église là. Faites-vous grâce réciproquement comme Dieu vous a fait grâce. Soyez compatissants. Éphésiens 4, 32. Et l'apôtre Jean nous lance un grand défi. 1 Jean 3, 17. Si quelqu'un possède les biens du monde, qu'il voit son frère dans le besoin et qu'il lui ferme son cœur, littéralement ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeurera-t-il en lui ? Et puis, il y a une troisième façon de manifester, une troisième conséquence de la compassion de Dieu pour nous, c'est que nous sommes appelés à glorifier Dieu et à célébrer ses merveilleuses compassions. Isaïe, je ne lis qu'un texte là, Isaïe 63, 7. « Je rappellerai les actes bienveillants du Seigneur l'Éternel. Je rappellerai les louanges de l'Éternel, d'après tout le bien que l'Éternel nous a fait. » Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, le bien qu'il leur a fait à la mesure de ses compassions et de ses multiples actes bienveillants. Là aussi, nous sommes appelés donc à glorifier Dieu, à célébrer dans la louange ses merveilleuses compassions, à les rappeler toutes et à bénir, à remercier le Seigneur et à le proclamer qu'il est compatissant aujourd'hui. Alors, nous voulons simplement nous incliner comme conclusion dans la prière. Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus, de ce grand jour où tu es passé par mon chemin et où tu m'as pris en charge. Je t'ai aussi sur le bord du chemin, comme cet homme entre Jérusalem et les profondeurs de Jéricho. J'avais atteint le fond. Et Seigneur, tu es passé sur mon chemin, tu es venu vers moi, tu m'as pris en charge et tu m'as remis en selle pour un nouvel avenir. Fais d'espérance, je te loue, je te rends grâce, mon Sauveur, mon Rédempteur, Seigneur Jésus, plein de compassion. Amen.